Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Aujourd'hui, on va parler de la réouverture des frontières. Elle a été annoncée pour le mois de novembre par Scott Morrison. Mais qui est concerné? Comment ça marche? Et si vous pensez, vous aussi, à rentrer prochainement en France, que faut-il faire et que faut-il savoir? On va parler de tout ça avec la consul de France à Sydney, Anne Boyon. On va aussi parler cuisine. Aujourd'hui, une cuisine méconnue, celle qu'on prépare dans les îles du détroit de Torres. Ce sera dans le cadre d'une nouvelle série de podcasts concoctée par Audrey Bourget, une série qui s'appelle « À table ». Et puis, comme tous les samedis, vous le savez, c'est le jour de notre rétro sonore. Aujourd'hui, on fait un bond de 15 ans en arrière, en 2006, pour parler du premier essai nucléaire réalisé par la Corée du Nord. Et puis, évidemment, il y aura un point sur le sport. Pour être honnête, aujourd'hui, ce sera surtout un point sur le foot. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va! Les principaux titres de l'actualité de ce samedi 9 octobre 2021. Sous l'égide de l'OCDE, 136 pays s'accordent pour imposer une taxe minimale sur les multinationales. Son taux est fixé à 15%. L'Organisation mondiale de la santé vient de publier une première définition de ce qu'est le Covid long, une définition qui devrait mieux permettre d'en identifier les symptômes et surtout de soigner cette maladie. Enfin, dans un contexte de tensions très vives en ce moment entre la Chine et Taïwan, des sénateurs français sont actuellement à Taipei où ils ont rencontré plusieurs personnes haut placées de ce régime. C'est un effort mondial inédit. 136 pays réunis sous l'égide de l'OCDE viennent de se mettre d'accord sur la taxation des multinationales. Un taux d'imposition minimum de 15% sera appliqué à partir de 2023. En Europe, l'Irlande, la Hongrie et l'Estonie, qui étaient réticentes à cette mesure, ont fini par s'y rallier. On attend de cette nouvelle taxe, qui s'appliquera donc dans des pays dont les économies représentent 90% du PIB mondial, qu'elle permette de faire rentrer 150 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses publiques. On écoute les explications d'Olivier Roger pour Radio France Internationale.
Les multinationales doivent payer des impôts dans les pays où elles réalisent des profits. Voilà le principe qui a guidé les 136 signataires de l'accord, un principe qui était loin d'être évident pour tous, alors que les multinationales s'ingénient depuis des décennies à échapper à l'impôt, ce que l'on appelle l'optimisation fiscale. L'accord conclu ce vendredi était en négociation depuis de longs mois, sous l'impulsion notamment des États-Unis et de la France, mais il a fallu obtenir le ralliement de pays clés, comme l'Irlande par exemple, siège européen des géants que sont Apple, Google ou encore Facebook, et qui proposait à ces firmes un régime fiscal plus qu'avantageux. Notez qu'en Afrique, le Kenya et le Nigeria, qui s'étaient d'abord engagés en faveur de l'accord, ont finalement refusé de le paraffer sans fournir de justification. Reste que ceux qui pensent que les paradis fiscaux s'évanouissent vont devoir déchanter. Les Pandora Papers, nouveau scandale planétaire d'évasion fiscale, prouvent qu'en la matière, beaucoup reste encore à faire. Des ONG et des économistes critiquent d'ailleurs l'accord de l'OCDE pour, disent-ils, son manque d'ambition.
Une mosquée chiite a été visée par un attentat suicide dans le nord de l'Afghanistan. L'explosion a tué et blessé des dizaines de fidèles. Le chiffre d'ailleurs n'est pas précis, il varie entre 50 et 300 personnes selon les sources. En tout cas, c'est la pire attaque perpétrée en Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans, une attaque revendiquée par Daesh, l'État islamique. Hussein Dad Rezaei était sur place. Il décrit la scène qui s'est déroulée sous ses yeux.
I was busy in construction work at home. As soon as the praying started, the explosion sound came. As I went to look for my relatives in the mosque, I saw it was full of everyone lying around. The number is not yet clear.
Le prix Nobel de la paix cette année a été attribué à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa, dont le site internet Rappler est l'un des plus vifs critiques du président Rodrigo Duterte, ainsi que ce prix donc attribué également au russe Dimitri Muratov, lui aussi critique du président russe Vladimir Poutine. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, leur a rendu hommage. Il a rappelé également l'importance de la liberté de la presse dans le monde.
No society can be free and fair without journalists who are able to investigate wrongdoing, bring information to citizens, hold leaders accountable and speak truth to power. Free and independent journalism is our greatest ally in combating misinformation and disinformation.
Le Parlement espagnol examine en ce moment un projet de loi sur le logement. Cette loi, qui est portée par le gouvernement socialiste à Madrid, entend notamment réguler le marché des locations alors que le prix des loyers explose dans les villes, au point que les jeunes n'arrivent plus à se loger. À Madrid, François Musso pour RFI.
Le prix des locations d'appartements s'envole depuis des années et une large partie de la population, jeune principalement, a toutes les peines du monde à se loger. À Madrid, la situation est spécialement critique. Andrea, 25 ans, est employée dans un centre de soins.
Pour vivre, on n'a pas d'autre choix que de partager un appartement. On n'imagine même pas pouvoir se loger seul. Les loyers n'arrêtent pas de grimper. On est enchaîné. Concrètement, on vit pour pouvoir payer son loyer.
Dans la nouvelle loi, il y a des mesures pour pénaliser les propriétaires possédant plus de 10 appartements. Mais ce qui, dans cette loi, intéresse particulièrement Andrea et tous les moins de 35 ans qui gagnent moins de 23 700 euros par an, c'est la possibilité de disposer de 250 euros de bonus mensuel pour une location. Pour autant, beaucoup de jeunes sont sceptiques sur l'efficacité de cette mesure, à l'instar de Joaquin, vendeur dans une boutique de parfums sur la Grande Via, qui passe les concours pour être policier.
Pour moi, c'est très important de pouvoir réguler les loyers et poser des limites. Je pense qu'il faut sanctionner les fonds vautours et ceux qui possèdent des appartements vides.
Le fameux bonus jeune suscite toutefois des espoirs. Beaucoup y voient la possibilité de s'émanciper. À en croire le Conseil de la Jeunesse d'Espagne, le CJE, pas plus de 15% des moins de 30 ans parviennent à quitter le foyer parental. François Musso, Madrid RFI.
C'est une première, l'Organisation mondiale de la santé vient de rendre publique la première définition officielle du Covid long. Le Covid long, il correspond aux symptômes persistants dont souffrent certaines personnes qui ont contracté le virus plusieurs mois après avoir été infectées. Pour le docteur Janet Diaz, cette définition est bienvenue car elle estime que le manque de clarté sur le sujet parmi les professionnels de santé entrave les efforts en matière de recherche et de soins.
This is an important step forward to standardize the recognition of patients living with post-COVID-19 condition. We hope it will help clinicians and health workers recognize patients and start them on appropriate treatments and interventions and care pathways. We hope that policymakers and health systems will set up and implement integrated care models to care for these patients.
Le Covid en Australie, c'est un triste record qui vient de nouveau d'être battu dans l'état du Victoria avec aujourd'hui 1965 nouveaux cas recensés, un bilan qui tombe au moment où la ville rurale de Mildura est placée en confinement pour 7 jours dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à Melbourne depuis déjà plusieurs semaines, à l'exception du couvre-feu. Cette flambée de nouveaux cas, on l'impute aux manifestations qui se sont déroulées il y a maintenant quelques semaines à Melbourne. Un climat tendu dans la ville qui pousserait certains policiers à poser des arrêts maladie, voire même à démissionner car ils n'en peuvent plus de faire la police du Covid. Des allégations niées fermement par Danny Pearson, ancien ministre par intérim de la police du Victoria.
No, oh, no, I don't believe so. I mean, I think that the people I speak with are in awe and are inspired by Victoria Police. Our officers have done an amazing job.
En Nouvelle-Galles du Sud, 580 nouveaux cas aujourd'hui, un chiffre qui continue de décroître. Par ailleurs, on est désormais tout proche du seuil de 90% de la population primo-vaccinée chez les plus de 16 ans. Dominique Perrottet, qui a pris la tête du gouvernement local cette semaine, s'en félicite.
We know that as we open up, case numbers will increase. But what has been key to keeping people safe is our high vaccination rate. We have the highest vaccination rate in the country, and importantly, we're coming close on that first dose mark to 90%.
Et rappelons que, alors que les bonnes nouvelles semblent s'accumuler pour la nouvelle Galles du Sud, que lundi, un certain nombre de restrictions seront levées. C'est le début de la fin de ce confinement qui a démarré maintenant il y a quasiment 15 semaines. On reste en Nouvelle-Galles du Sud. Kerry Chent, la médecin-chef de l'État, a pour sa part indiqué que les doses de rappel du vaccin pour le Covid-19 allaient être rendues disponibles très prochainement pour les personnes immunodéprimées. Une dose de rappel qui s'adresse pour l'instant uniquement à ceux qui ont des problèmes de santé graves, comme par exemple des cancers.
And this is due to emerging evidence that some immunocompromised individuals have not as good immune response and need that third dose to get that best chance of protection. So for the third dose, an mRNA vaccine, Moderna or Pfizer, is the preferred to AstraZeneca, and the recommended interval between that third dose is 2 and 6 months after the second.
C'est une visite parlementaire sous haute tension. Hier, des sénateurs français se sont rendus à Taïwan où, d'ailleurs, au passage, on précise que l'ancien Premier ministre australien Tony Abbott se trouve actuellement aussi. Donc, ces sénateurs australiens, ils y étaient pour rencontrer un certain nombre de dirigeants. Et cette visite, elle est marquée par un contexte en ce moment très tendu puisque la Chine, ces derniers jours et ces dernières semaines, a multiplié les provocations à l'égard de Taïwan, donc ce pays dont elle ne reconnaît pas la souveraineté. Pékin a également très vivement protesté contre la venue de ces parlementaires français à Taïwan. Adrien Simard pour RFI.
La visite des sénateurs français à Taïwan n'avait sur le papier rien d'extraordinaire, une venue comme on en compte presque tous les ans depuis plus de 40 ans. Mais c'était sans compter les menaces de Pékin pour faire annuler la visite, le sénateur Olivier Cadic.
Les régimes autoritaires considèrent que les démocraties, ça n'est pas le bon système pour le développement humain. Taïwan est le contre-exemple. La France est attachée à la démocratie. Et donc, nous sommes là aussi pour dire à Taïwan, vous n'êtes pas seul.
Car la visite des sénateurs arrive aussi en pleine démonstration de force de Pékin. En début de semaine, un nombre record d'avions militaires chinois a été identifié aux portes de Taïwan. Le sénateur Alain Richard.
Ces incursions sont la menace la plus sérieuse à la stabilité dans la région. On est observé depuis longtemps. C'est un signal d'alerte à l'ensemble des pouvoirs attachés à la stabilité dans la région.
Ces derniers temps, les soutiens à Taïwan se sont d'ailleurs multipliés. Ce matin, l'ancien Premier ministre australien Tony Abbott, lui aussi en visite à Taipei, n'a ainsi pas mâché ses mots pour soutenir le gouvernement taïwanais. Nous devons faire savoir à Pékin que tout usage de la force aura des conséquences considérables, a-t-il lancé devant la présidente taïwanaise. Adrien Simard, Taipei, RFI.
On termine comme toujours avec un point sur la météo du jour en Australie. 20 degrés et des nuages aujourd'hui à Perth, 21 à Adélaïde où on attend des averses dans l'après-midi, 23 degrés à Melbourne où la pluie là aussi pourrait s'inviter en fin de journée, 24 à Canberra et du soleil. Soleil aussi à Sydney avec 26 degrés, 29 degrés à Brisbane et jusqu'à 35 degrés à Darwin aujourd'hui. Magazine des sports aujourd'hui, et je m'en excuse d'avance, exclusivement consacré au football. Et on commence tout de suite par revenir sur la demi-finale entre la France et la Belgique qui s'est jouée jeudi soir dans le cadre de la Ligue des Nations. Un match complètement fou avec une première mi-temps largement dominée par les Diables Rouges, grâce notamment à leur attaquant vedette Romelu Lukaku, en très grande forme jeudi soir. Et un match qui se termine donc à la 45e minute sur le score de 2-0. Pour la Belgique. Mais à la deuxième mi-temps, la situation va se retourner complètement. Ce sont les Bleus qui prennent l'avantage avec un premier but exceptionnel de Karim Benzema, un deuxième sur pénalty de Kylian Mbappé et enfin le but de la délivrance inscrit à la 90e minute par Théo Hernandez qui avait fêté la veille ses 24 ans et dont c'était seulement la deuxième sélection en bleu. Alors, on va écouter comment la physionomie de ce match a complètement changé entre la première et la deuxième mi-temps. d'après Paul Pogba.
Vous allez le voir sûrement sur des vidéos, mais j'espère que ça sera après la victoire dimanche, qu'est-ce qu'on s'est dit dans le vestiaire. Et voilà, en deuxième mi-temps, quand on est revenu, on a dit on y va, on est prêts, on va récupérer des ballons plus haut, essayer de récupérer, ça va être du 1 contre 1. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais nous aussi, on a de la qualité et on doit le montrer surtout en deuxième mi-temps. Et on a très bien fait.
Autre impression sur ce match, confié quelques minutes plus tard aux caméras de la Fédération française de football dans les vestiaires par le défenseur Raphaël Varane. On l'écoute.
Magnifique. Le scénario, il est magnifique. On a réussi à faire une deuxième mi-temps de très très haut niveau pour gagner, pour aller arracher la victoire. Donc, on avait un bon adversaire en face et on a réussi à être performant.
Ça fait joie à quoi ?
Bah, je pense qu'on a mieux pressé en équipe. C'est vrai que c'est un système qui est un peu nouveau pour nous, donc on a besoin un peu de repères. Mais dans l'attitude, on a été plus mordant en deuxième mi-temps, on les a vraiment bousculés. Et c'est ce qui nous a permis d'être plus dangereux, de récupérer des ballons plus haut sur le terrain. Et ensuite, on y a été au mental, on y a cru jusqu'au bout et du coup, on a réussi à arracher la victoire.
Une équipe de guerriers, c'est ça ?
Ah, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est cet état d'esprit qu'il nous faut pour gagner. C'est l'état d'esprit qu'il faut et faut rien lâcher, faut continuer comme ça.
Bon, c'est pas fini en même temps.
C'est pas fini, on va bien récupérer parce que dans 3 jours, on a une finale contre une très bonne équipe aussi. Donc voilà. On peut être satisfait, ce soir on va savourer, mais dès demain on pensera à la finale.
A l'inverse, comme on peut l'imaginer, côté belge, il y avait beaucoup de déceptions. On l'entend bien par exemple dans cette réaction de leur gardien de but, Thibaut Courtois.
On joue contre des bons joueurs, c'est normal qu'ils ont la classe pour faire ça dans la surface. Bien sûr, Benzema que je le connais, donc mais je ne sais pas comment c'est passé. Le deuxième but c'est un paire de balles et après un pénalty un peu... bête, c'est dommage, il ne veut pas faire pénalty, c'est un petit tac et ça a touché son mollet je crois et l'arbitre a sifflé pénalty. Non, on savait que le foot c'est comme ça, 2-0 c'est pas assez, en plus contre une équipe comme la France, c'est comme ça, donc contre qui tu perds, ça, c'est juste pour apprendre, mais c'est 2 fois la France, c'est pas grave, la dernière fois c'était l'Italie, donc c'est un peu la vie.
Voilà, et donc la finale de cette Ligue des Nations, elle va se jouer dimanche, la France va affronter l'Espagne qui, elle, a remporté une très belle victoire le même soir, jeudi, face à l'Italie 2-1. Un match qui s'annonce pour les Bleus très différent de celui qui s'est joué contre les Belges. Un match plus technique en perspective en raison notamment de la stratégie mise en place par leur entraîneur, Luis Enrique. Écoutez ce qu'en dit le sélectionneur français, Didier Deschamps.
Il est dans la lignée de ses prédécesseurs aussi, avec cette capacité à maintenir l'équipe d'Espagne toujours au haut niveau, même si eux aussi ils ont été éliminés un peu plus tard durant l'Euro, mais voilà, il y a des jeunes joueurs qui arrivent aussi, mais toujours avec cette capacité individuelle et collective à diriger le jeu, et puis il y a un titre en jeu pour le Luis comme pour moi, donc on était là pour ça, on est les 2 finalistes et c'est important de gagner des titres, donc dimanche, il y aura un heureux et un malheureux. J'espère faire partie d'être du côté de celui heureux.
Football toujours. Hier soir a été dévoilée la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2021. Une liste dans laquelle on retrouve 2 Belges, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, qui évoluent respectivement à Chelsea et Manchester City. On trouve aussi 3 Français, Karim Benzema qui est au Real Madrid, N'Golo Kanté, lui aussi il joue à Chelsea, et enfin Kylian Mbappé, attaquant au PSG. Et d'ailleurs, mais c'est moins surprenant, on a aussi dans cette liste 2 autres joueurs du PSG, le Brésilien Neymar, l'Argentin Lionel Messi qui sont également nommés, tout comme des habitués comme Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski ou encore le jeune Erling Haaland. Voilà, enfin pour terminer, un mot rapide sur les matchs de qualification pour la Coupe du Monde qui se joue en Europe ce week-end. Dans les résultats notables, l'Allemagne hier soir s'est imposée 2-1 sur sa pelouse face à la Roumanie, tandis que l'Angleterre se déplace ce soir en Andorre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à demain pour un nouveau magazine des sports. C'est maintenant l'heure de notre rétro sonore, une rubrique qu'on retrouve tous les samedis. Aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre et il y a tout juste 15 ans, le 9 octobre 2006, la Corée du Nord effectuait et réussissait son premier essai nucléaire, un essai souterrain. Ensuite, d'autres ont suivi dans les années suivantes. La Corée du Nord est devenue ainsi le 9e pays au monde à maîtriser la bombe nucléaire, un défi lancé à la communauté internationale et particulièrement aux Occidentaux. Retour sur ce 9 octobre 2006 et ses conséquences, une rétro sonore avec des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel et de France Télévisions.
Bonjour à tous. La Corée du Nord défie le monde. Le régime communiste a fait exploser sa première bombe atomique tôt ce matin. La condamnation est unanime. Le Japon et les capitales occidentales réclament des représailles.
Elle a le sourire patriotique, la présentatrice. Le test nucléaire de notre première bombe atomique, dit-elle, ce matin à 10h35 heure locale, a réussi à 100%. Et de conclure, c'est un événement historique encourageant. Un essai réalisé sous terre, dans un tunnel horizontal creusé sous une colline de la région de Wadaeri, qui se trouve à 385 km au nord-est de Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. Dans les pays voisins, au Japon surtout, un vent de panique a soufflé dans les rues au point que le gouvernement lance un appel au calme.
La Corée du Nord serait donc le 9e pays à se doter de la bombe atomique. Pourquoi cette initiative suscite-t-elle la condamnation ?
Les réactions de la communauté internationale sont unanimes. Condamnation en bloc, y compris bien sûr de la France. À Moscou, Vladimir Poutine a parlé d'une bombe de 5 à 15 kilotonnes, soit l'équivalent d'Hiroshima, dont l'ogive américaine il y a 61 ans était de 15 kilotonnes.
C'est le jour où le monde bascule dans l'ère nucléaire. 6 août 45, les États-Unis larguent leur première bombe atomique sur Hiroshima. 75 000 morts, un bilan qui ne dissuade personne. Vient le temps des essais nucléaires. L'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France qui testent sa bombe en 1960 au Sahara. Plus tard, à Mururoa, dans le Pacifique. En 64, la Chine complète ce qui va devenir le club des grandes puissances nucléaires. Un club soucieux de rester le seul maître de cette technologie. Les cinq mettent au point un traité dit de non-prolifération. Il tient en quelques principes. Interdiction d'abord aux pays nucléaires de transférer leur technologie et pour les États non nucléaires d'accéder à la bombe. En revanche, le développement de l'atome civil est favorisé. 189 pays ont signé, seuls 4, Israël, le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord, n'ont pas ratifié le traité et détiennent l'arme atomique.
Pyongyang, capitale militarisée d'un pays au régime incontrôlable. Kim Jong-il, maître sans partage de ce pays communiste de 22 millions d'habitants. Dans l'immédiat, la réaction la plus déterminée est venue de Séoul. Aux manifestations anti-Kim Jong-il s'est ajoutée la suspension immédiate par la Corée du Sud de l'aide humanitaire aux frères affamés du Nord, victimes de la folle politique de leur président à vie.
Le dictateur Kim Jong-il face à une parade militaire. Voici une des rares images autorisées de la Corée du Nord. Un régime stalinien pur et dur, fondé sur la propagande et le culte de la personnalité. Partout, dans les rues de Pyongyang, des statues monumentales à son effigie et à celle de son père, Kim Il-sung, à qui il a succédé. Son règne a fait de la Corée un des pays les plus fermés au monde. En l'absence de journalistes et d'observateurs internationaux, les 22 millions de Nord-Coréens n'ont ni liberté de déplacement, ni liberté d'expression. Selon Amnesty International, ils seraient même de plus en plus nombreux à vouloir fuir. Le pays doit faire face à une véritable catastrophe humanitaire. Le régime mène une politique de militarisation à outrance, au détriment du développement agricole. Résultat, le pays est en proie à une crise alimentaire très grave, et même les ONG ont des difficultés à entrer dans le pays. Depuis des dizaines d'années, le pays survit grâce à l'aide de ses rares partenaires régionaux. Mais en défiant aujourd'hui la communauté internationale, la Corée du Nord s'est exposée à des sanctions qui ne feront qu'aggraver la situation du pays.
La présentatrice de la télévision nord-coréenne. D'habitude, c'est elle qui annonce au pays chaque essai nucléaire. Cette fois, son message est totalement différent.
Ce 21 avril 2018, nous suspendons nos essais nucléaires et nos essais de missiles balistiques intercontinentaux.
Alors, ces images appartiennent-elles au passé ? C'est en tout cas ce qu'a décidé le leader nord-coréen, Kim Jong-un. Il n'y aura plus d'exercices de tirs de missiles à longue portée, comme ceux qui peuvent atteindre les États-Unis. Donald Trump s'en félicite.
C'est une très bonne nouvelle pour la Corée du Nord et pour le monde. Un grand progrès.
La Corée du Nord s'engage aussi à fermer son site d'essai nucléaire souterrain, Punggye-ri, au nord du pays. Mais le régime ne promet ni la destruction de son arsenal existant, ni l'arrêt des tirs à courte et moyenne portée, capables de frapper les autres pays de la région. Voilà pourquoi, même si la Corée du Sud salue l'annonce, le Japon reste prudent.
C'est une avancée. Toutefois, il est crucial de savoir si cela va mener à un démantèlement complet, irréversible et vérifiable de l'arsenal nucléaire. Je serai vigilant là-dessus.
Le régime veut-il vraiment dénucléariser le pays? Non, selon ce spécialiste.
Ça fait 40 ans qu'il investit toute son énergie pour avoir ce programme nucléaire pour son assurance vie. Maintenant, il a son assurance vie et il peut passer à autre chose pour développer son pays économiquement.
Les États-Unis ont fermé les yeux sur le Pakistan, un allié pourtant sous la pression islamiste. La Corée du Nord, elle, a bénéficié de la protection de son parrain chinois et la Russie freine sur le dossier iranien. L'Iran, qui pourrait bien s'inspirer de l'exemple nord-coréen, est resté sourd aux menaces de sanctions.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur une annonce qui a suscité pas mal d'enthousiasme au sein de la communauté française et la communauté étrangère en général en Australie. Scott Morrison, il y a quelques jours, a annoncé la réouverture enfin des frontières de l'Australie au reste du monde. Alors, pour l'instant, il ne s'agit que d'une annonce, ça n'a pas encore été traduit dans la loi et par ailleurs, pour l'instant, cette réouverture, elle ne concerne que les personnes qui ont la nationalité australienne, les résidents permanents, à la condition qu'ils soient complètement vaccinés. Reste que ça concerne quand même un certain nombre de gens, qu'il y a peut-être parmi vous certains qui espèrent pouvoir, par exemple, rentrer en France pour passer Noël en famille. Et vous avez peut-être un certain nombre de questions, car on reste dans une période de pandémie mondiale. Il ne suffit pas d'acheter son billet d'avion sur Internet et d'être à l'heure à l'aéroport. C'est un peu plus compliqué que ça que de nos jours. Alors, pour essayer de répondre à un maximum de vos questions, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui la consule de France à Sydney, Anne Boyon. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Grégory, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de SBS en français et à la communauté française qui nous écoute. Comme vous le dites, c'est effectivement une bonne nouvelle, en particulier une bonne nouvelle pour nos compatriotes qui ont la chance d'être binationaux ou résidents permanents et qui peuvent donc se projeter. Il y a un certain nombre de points qui restent à éclaircir sur un possible départ vers l'Europe et vers la France pour rendre visite à leur famille au cours des prochains mois. Alors, comme vous le soulignez à juste titre, on est encore dans un contexte de pandémie, donc il y a un certain nombre de règles à respecter et il est important de se renseigner sur les conditions de déplacement. Alors, la France a un système en fait de classement des pays tiers en fonction desquels des règles sont appliquées. L'Australie est un pays vert puisque le niveau de circulation du virus y reste malgré tout assez bas. Et donc il n'y a pas besoin lorsqu'on voyage en France depuis l'Australie d'avoir de motifs impérieux. Il faut simplement pouvoir présenter des preuves sanitaire. Alors, ou bien il peut s'agir d'une preuve de votre vaccination. Alors, si vous êtes double vacciné en Australie, c'est très bien, puisque les vaccins qui sont administrés en Australie sont reconnus en France et dans l'ensemble de l'Union européenne. Ou bien, si vous n'êtes pas vacciné, dans ce cas-là, il faudra produire, et la compagnie aérienne vous le demandera à l'embarquement, un test PCR négatif au moins de 72 heures, qui vous sera aussi sans doute demandé en France lorsque vous arriverez à Roissy. Ça, c'est, on va dire, pour le voyage.
D'accord. Alors, si je comprends bien, on sait que depuis cet été, en France, il y a un pass sanitaire qui est exigé pour accéder à la plupart des lieux publics, mais aussi pour prendre l'avion, pour prendre le train, en tout cas autre chose qu'un train de banlieue. Si je comprends ce que vous venez de dire, au moment où on monte dans l'avion pour se rendre en France, à ce stade, on n'est pas encore obligé d'avoir un pass sanitaire. Le certificat australien de vaccination suffit.
Oui, ou un test PCR négatif de moins de 72 heures. Par contre, effectivement, en France, depuis cet été, et les Français le savent, il y a un pass sanitaire qui a été mis en place pour pouvoir accéder au transport de longue distance, pour pouvoir accéder à un certain nombre de lieux publics, les restaurants, les cinémas, les salles de spectacle, au-delà d'une certaine capacité. Et donc, ce passe sanitaire aujourd'hui en France, sa durée d'application a été prolongée et il est maintenant aussi exigé pour non seulement pour les adultes, mais pour les enfants de 12 à 17 ans. La bonne nouvelle, là aussi, c'est qu'il est très facile d'obtenir, avant de partir, la conversion de son certificat vaccinal australien en passe sanitaire français et donc européen. Ça veut dire que non seulement vous allez avoir, ça va vous générer un QR code qui sera utilisable en France, mais aussi dans l'ensemble de l'Union européenne si vous voulez voyager de la France vers d'autres pays de l'Union européenne. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site du consulat où on explique la démarche, mais ou plus directement sur un site qui s'appelle Démarche simplifiée en France. Mais le mieux, c'est d'aller sur le site du consulat puisqu'il y a tous les liens. Et donc, il vous suffit de trois choses. De votre certificat vaccinal australien, d'une pièce d'identité et d'une preuve de résidence en Australie, ce qui peut être par exemple votre attestation consulaire, une carte consulaire que vous pouvez aussi de toute façon télécharger en ligne, donc c'est bien d'être inscrit au registre des Français à l'étranger. Et vous téléchargez tout ça et ensuite il y a un service qui le traite avec des équipes, notamment du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ça arrive en général assez rapidement. Et donc, ensuite, ça veut dire que lorsque vous arrivez en France, vous êtes vraiment tout de suite, on va dire, capable d'aller au musée, au restaurant, de prendre le train.
D'accord. Donc, tout se fait en ligne. Et si je comprends bien, c'est rapide, c'est l'affaire de quelques jours, moins d'une semaine?
Oui, enfin, moi j'en ai fait l'expérience pour des proches et ça se fait en quelques heures.
D'accord. Alors, je reviens un petit peu en arrière au moment où on est dans l'avion. Bon, en ce moment, les frontières en Australie étant telles qu'elles sont depuis 18 mois, des vols internationaux, des compagnies aériennes qui sont capables d'aller jusqu'en France, il y en a encore très très peu. Au-delà des exigences de la France pour revenir, est-ce que certains de ces pays ont des exigences supplémentaires? J'ai vu par exemple que les gens qui utiliseraient Qatar Airways et qui passent donc par Doha, quel que soit le statut vaccinal du passager, ils exigent en plus un test RT-PCR de moins de 72 heures. Est-ce que...
Je ne vais pas rentrer dans les politiques des compagnies, alors parce que il faut regarder les conditions d'entrée en France qui sont en général répercutées par la compagnie, mais des fois effectivement les compagnies aériennes ont leur propre politique et peuvent exiger des choses supplémentaires. Donc ça c'est vraiment, je veux dire, aux usagers de se renseigner auprès des compagnies aériennes, parce que moi je ne vais pas, communiquer sur les critères des compagnies aériennes, puisque de toute façon, je ne les connais pas dans le détail et ils peuvent évoluer aussi dans les semaines qui viennent.
Bon, alors il faudra bien regarder tout ça au moment d'acheter vos billets. Bon, alors on est dans l'avion, on arrive en France, à Roissy, ou d'ailleurs dans un autre aéroport, pourquoi pas. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, comme dans les aéroports australiens, on a des équipes qui vous posent des questions, qui vous prennent la température? Est-ce qu'il y a une période d'isolation ou de quarantaine imposée, quel que soit son statut vaccinal? Ou en gros, on est arrivé, bienvenue
Non, pas du tout. Surtout si on arrive d'Australie, donc un pays qui a le statut de pays vert. Hein. Là-dessus, vous pouvez consulter les sites gouvernementaux français ou le statut des pays. Parce que le statut des pays tiers est régulièrement révisé, mais l'Australie a toujours été un pays vert. Et donc, il n'y a aucune mesure, d'isolement, de quatorzaine, d'auto-isolement à l'arrivée pour des voyageurs qui arrivent d'Australie.
D'accord. Bon, comme ça, les choses sont simples. Alors, On va passer maintenant à une autre partie de la discussion. On rappelle donc que pour l'instant, toutes les choses dont on a parlé ne concernent que les binationaux et les résidents permanents qui, d'après les déclarations de Scott Morrison, pourront revenir en Australie dans la mesure où ils arriveront à trouver des vols. Bien sûr, ça reste compliqué en ce moment. Et le gros changement en fait dans la politique australienne en la matière, c'est qu'il n'y aura plus de quarantaine à l'hôtel obligatoire qui dure 15 jours et qui accessoirement est payante et elle est quand même pas donnée, c'est qu'on pourra faire une quarantaine allégée de 7 jours chez soi. Et ça, c'est censé permettre eh bien, la réouverture progressive du pays puisque jusqu'à présent, tout était conditionné par les places justement dans ces lieux de quarantaine. En revanche, pour l'instant, pas d'annonce particulière pour le retour des touristes. Il y a eu néanmoins quelques déclarations qui concernent les travailleurs qualifiés, mais aussi les étudiants étrangers. Ça peut peut-être intéresser une partie de notre communauté qui devrait, après les résidents permanents et les binationaux, être les prochains sur la liste à pouvoir bénéficier de cette réouverture.
Oui, alors sur l'ensemble de ces aspects, je ne vais pas donner plus de détails que ceux qui ont déjà été donnés par le gouvernement australien parce que je n'en sais rien et donc il faut quand même être effectivement vigilant et prudent sur la sur la réalité de ce qui va être possible parce que oui ce qui a été annoncé c'est effectivement une levée du travel ban outbound, donc en fait des restrictions qui empêchaient les Australiens et résidents permanents de sortir du territoire. Ils devaient pour cela demander une exemption et justifier de motifs impérieux, professionnels ou humanitaires. Visiblement, ce ne sera plus le cas, mais bien sûr, il faut attendre des textes qui lèvent ces restrictions. Ils ont toujours été, bien sûr, les Australiens et les résidents permanents, autorisés de droit, on va dire, à revenir dans leur pays, même s'il y avait des obstacles logistiques qui étaient liés à la quatorzaine et surtout aux quotas sur les arrivées d'avions. Néanmoins, ce que je voudrais souligner quand même, c'est que ça ne va pas être visiblement une réouverture massive, puisque même si des textes qui interdisaient la sortie ou soumettaient la sortie du territoire à l'obtention d'une exemption sont levés, logistiquement, cela dépendra des États, de la capacité des États à remettre en place, on va dire, des rotations aériennes fréquentes et à autoriser sur leur territoire ces fameuses quarantaine de 7 jours à domicile. Et pour ça, il y a des expériences pilotes avec des systèmes un petit peu d'autosurveillance qui sont mis en place. Donc, ça dépendra aussi des résultats, j'ai l'impression, de ces expériences pilotes et surtout de l'appétence des États et des territoires australiens à franchir cette étape. Lorsqu'on les écoute, ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Non. Il y aura aussi, et on l'a entendu, bien sûr, la tentation, si des aéroports s'ouvrent, on va dire, de manière plus précoce que d'autres, bien sûr, la tentation pour les résidents qui habitent dans d'autres États de prendre l'avion, par exemple, à Sydney. Mais bien sûr, il y a aussi des conditions qui ont été émises sur leur capacité au retour à revenir dans leur état de résidence. Donc ça, c'est quand même des choses sur lesquelles nos compatriotes qui doivent être vigilants en tant que résidents en Australie, parce que tout n'est pas encore complètement clair. Et comme vous l'avez également souligné, il y a bien sûr un point, j'ai envie de dire, c'est un point important auquel nous sommes particulièrement attentifs, c'est que effectivement, ce qui est annoncé, c'est une bonne nouvelle pour nos compatriotes binationaux résidents permanents. Ça ne change en revanche malheureusement rien à la situation de nos compatriotes qui résident et travaillent en Australie sous le statut de visa temporaire. Ils sont encore relativement nombreux, il y en a à peu près 12 000 Français dans cette situation, qui travaillent pour des entreprises, qui sont étudiants, qui ont prolongé leur visa vacances-travail avec des Covid visa. Toutes ces personnes, bien sûr, n'ont jamais été interdites de sortir territoire, mais par contre ne peuvent pas y revenir puisque la fermeture des frontières reste en vigueur pour les détenteurs de visas. Et donc ça, c'est un point sur lequel on a commencé à réfléchir avec, on va dire, nos homologues européens, parce que il est clair, et on a vu des témoignages dans la presse, il est clair que ces personnes-là qui vivent en Australie, qui travaillent en Australie, qui payent leurs impôts en Australie, se sentent un petit peu, disons, discriminées. Puisque elles aussi, depuis 18 mois, elles n'ont pas pu aller rendre visite à leur famille à l'étranger, en France, ni recevoir leur famille. Et donc, elles aspirent aussi légitimement à pouvoir bénéficier dans les mois qui viennent des mesures d'assouplissement qui sont annoncées. Il faut voir comment, parce que c'est évident que elles n'appartiennent pas effectivement à la même catégorie, mais en même temps, elles ont légitimement les mêmes aspirations.
Vous, personnellement, Mme Boyon, que ce soit pour des raisons professionnelles ou autres, est-ce que vous avez eu l'opportunité de retourner en France depuis le début de la pandémie ?
Pour ma part, non, je ne me suis pas rendue en France parce que je pense qu'il y a aussi... Parce que d'abord, on a eu beaucoup de travail ici et que je pense qu'il y avait aussi un devoir de solidarité et d'exemplarité vis-à-vis de nos compatriotes. Je suis consul général, donc en charge de la communauté française. Donc il n'était pas question pour moi de faire des allers-retours pour des motifs personnels.
D'accord. Je vous posais la question parce que donc pour l'immense majorité, on est bloqué entre guillemets dans ce pays, l'Australie, et même dans les grandes villes comme Sydney ou Melbourne, la densité de population est quand même très faible. On peut faire des kilomètres entiers. Moi, dans mon quartier à Sydney, je peux faire 10 kilomètres à pied sans croiser plus de 10 personnes. En France, ça fait maintenant quelques mois que la vie a repris son cours normal. Il y a des concerts, il y a des gens dans les bars, il y a des manifestations aussi, des fois, avec beaucoup de monde dans les rues. Comment faire pour ne pas être frappé d'une crise d'agoraphobie quand on rentre à Paris? Vous avez des conseils?
Non, aucun. Mais je pense que de toute façon, la principale motivation de nos compatriotes, c'est d'abord, je pense, de rendre visite à leurs proches. Et donc, ce qui compte surtout, c'est ça. Je pense que ça permettra de surmonter largement les risques d'agoraphobie. Et puis, de toute façon, sinon, ne voyagez pas. Hein. On est aussi très bien en Australie.
D'accord. Bon, merci beaucoup, Madame la Consule. Merci pour les réponses que vous avez apportées. Puis, je précise que sur notre site, nous mettrons tous les liens vers les différents sites, services publics, etc., avec les informations dont on a parlé là.
Voilà, nous actualisons régulièrement notre site. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que malgré le confinement, le consulat général et nos antennes à Perth, à Melbourne, sont restés ouverts sans interruption. Donc normalement, même je sais qu'il y a quelques délais d'attente, les personnes qui souhaitaient faire des demandes de renouvellement de passeport ont pu le faire, et on organisera aussi des tournées dans les semaines qui viennent pour que chacun puisse obtenir ses documents de voyage.
D'accord, et bien encore une fois, merci beaucoup, Madame Boyon. À bientôt.
Au revoir.
Il m'a dit, c'était pas si mal avec la grandeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'or. Mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans.
Et vous avez reconnu sans doute Dalida et ce morceau qui s'intitule « Il venait d'avoir 18 ans ». Vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français. Il est 13h et quasiment 52 minutes. On entre dans la dernière partie de notre programme. Pour l'occasion, nous vous présentons une nouvelle série de podcasts qu'on vient de lancer. Cette série, elle s'appelle « À table » et aujourd'hui, Audrey Bourget vous propose de découvrir la cuisine du détroit de Torres. Une cuisine dont on parle avec la chef Norni Barrow.
Bonjour et bienvenue à À Table Kitchen Conversations, le podcast où on rencontre des chefs, des agriculteurs, des producteurs et des passionnés de bonne bouffe pour nous parler de sujets qui nous donnent faim. Aujourd'hui, on découvre la cuisine des îles du détroit de Torres avec la chef Noni Bero. Si je parle de plats avec de la noix de coco, du manioc et du sanglier, vous ne pensez probablement pas à la cuisine australienne. Mais pourtant, ce sont des ingrédients tout ce qu'il y a de plus commun sur les îles du détroit de Torres au nord du pays. C'est une région avec une culture forte et une cuisine unique.
Well, I'm an island girl, so I'm a Torres Strait Islander. I'm born and raised there. I'm lucky. My father raised me there, a single father. I guess I grew up with a single father who was really awesome about making sure that I learned tradition and culture. And I got to, you know, grow up on a tropical island. Who can say that?
Cette island girl que vous venez d'entendre, c'est Noni Bero, la chef propriétaire du café Mabou Mabou et du restaurant Big Esso à Melbourne. Elle fait partie d'un des peuples autochtones du détroit de Torres, la tribu Comet de l'île de Mer.
I just grew up in a very happy culture, I guess, you know, where we have nothing. We're not monetary wealthy, but we are always fed and, you know, and have a really great community life.
L'île de Mer fait partie d'un groupe de plus de 250 îles du détroit de Torres qui se trouve entre le nord de l'Australie et la Nouvelle-Guinée. La plupart de ces îles font partie de l'Australie, mais ont un statut spécial. Pour se nourrir, les insulaires comptent beaucoup sur la pêche, évidemment, mais aussi sur ce qu'ils cultivent dans leur jardin et ce qui pousse naturellement autour d'eux.
We're big cassava and yam eaters. I'm trying to bring the yam back, you know, because I think it's just so delicious. So it's one of my mission list of getting it on the menus, you know, everywhere. But like, you know, we grow up from anything from in the ocean, but we also grow up with indigenous fruits and berries from condoms to lemongrass. We have our own tea grass that we use, chilies. People forget how tropical parts of the Torres Strait is. We grow up with our own plums, wangais, mangoes, you name it, tamarinds. The list goes on of how much natural resources we have from sea succulents right up until having fresh fish from the reef or octopus or I don't know. I grew up with so many things that I'm lucky that our palate is like very diverse from wild boar as well.
Avec le temps, le commerce et les déplacements, la cuisine de la région a aussi été influencée par plusieurs pays d'Asie comme l'Indonésie et le Japon.
You know, Torres Strait was multicultural before the rest of Australia was, and we love everyone and we mix together. And
l'un des plats traditionnels que Noni Bero affectionne particulièrement est le poulet sémur, qui est mijoté longuement dans un bouillon à base de sauce soja.
But it also is one of those dishes that every island person makes. And I make it every time winter starts to hit or I feel homesick. This dish comes out, you eat it for 3 days. It is like one of those dishes that kind of keeps on giving. And it is about how the Japanese settled into the Torres Strait and became part of our beach demur and our pearling culture that was there and then married into our families and brought their like soya sauce over. And then it integrates into our food and becomes like basically a national dish. You know, we have this perception that Australia is only one thing, but we have many different weathers and we have many different, you know, tropical fruits to non-tropical as well. So I think we just need to celebrate that a little bit more and know that, you know, Australia's food produce is so diverse.
Noni Bero prépare sa version du poulet sémur et d'autres plats avec lesquels elle a grandi chez Mabou Mabou et Big Esso à Melbourne. À ses menus, vous trouvez entre autres un bourguignon de queue de kangourou, des huîtres avec une mignonnette de baie poivrée et de l'émeu grillé. Parfois, ces plats sont traditionnels, d'autres fois plus modernes, mais dans tous les cas, elle met de l'avant des ingrédients indigènes du pays.
Really big believer in the whole, you know, native side of it, and I really want to make that the hero, and I want to make Australia the hero.
Si on a piqué votre curiosité et que vous voulez en connaître plus sur la cuisine des îles du détroit de Torres, on vous recommande la série Straight to the Plate, disponible en ligne sur SBS On Demand, et bien sûr de visiter Mabu Mabu et Big Esso à Melbourne.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec ce morceau de Bob Sinclair qui s'intitule « I feel for you ». Moi, je vous donne rendez-vous dès demain à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et si vous n'êtes pas devant votre poste à 7h, je vous rappelle que de toute façon, vous pouvez aussi nous écouter en podcast très facilement. Il suffit de vous abonner à notre chaîne SBS French sur votre plateforme de streaming audio préférée. Un grand merci à Nathan, à la technique. Quant à vous, chers auditeurs, je vous souhaite un très bon après-midi et un excellent week-end.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.